Culture Mag sur Radio Lac et en multidiffusion sur Carac, présenté par Marie-Ève Musy.
Genève, ville de culture.
Je suis toujours en compagnie de mes deux invités, Sadri Sayeb, responsable de la Bibliothèque d'art et d'archéologie, et Florent Dufaux, adjoint de direction aux bibliothèques municipales. Sadri Sayeb, vous teniez à rebondir sur le code de déontologie qu'on a évoqué tout à l'heure.
Oui, de BiblioSuisse, en rappelant aussi que, ben, en tant qu'employé de l'État ou de la ville de Genève, on est tenu à une neutralité, on est encadré par des dispositions réglementaires, par une loi notamment sur le port de signes religieux ostentatoires. Et aussi compléter la déontologie, c'est aussi un code, c'est aussi le code ADN des bibliothécaires qui sont en contact avec le public, qui s'efforcent de faire des bibliothèques un espace sûr, respectueux et bienveillant, notamment pour les populations discriminées. Donc ça fait partie de l'ADN du bibliothécaire, cette neutralité, ce respect, cette bienveillance. C'est très dur, on n'encouragerait pas les gens qui ne disposent pas de ces compétences à accueillir le public dans 40, 50, 60 heures par semaine.
Vous approuvez ?
Si je peux rebondir. Oui, j'approuve, d'autant plus que c'est les points que Sadri a mentionnés figurent assez explicitement dans le code d'éthique de BiblioSuisse, au chapitre de la neutralité. On dit effectivement que les bibliothécaires dialoguent avec leur public d'égal à égal, donc il y a effectivement cette dimension de ne pas juger, de ne pas être jugeante ou jugeant face au public, à sa situation, à ses demandes, et puis que les bibliothécaires font la distinction entre leurs convictions personnelles, leurs devoirs professionnels. Nous, c'est bien dans un contexte d'une institution, Sadri l'a mentionné, ça peut être effectivement un devoir de réserve, de neutralité, sur toutes les dimensions, donc c'est effectivement ce code, un outil qui répond aussi, qui sert de base de discussion, mais qui répond et qui s'inscrit dans le contexte de chaque institution, de chaque professionnel aussi.
Et par rapport à cette histoire de se situer d'égal à égal entre bibliothécaires et usagers et usagères, qu'est-ce que vous ressentez par rapport à la sensibilité des gens qui viennent consulter au BM ? Est-ce qu'elle s'est exacerbée ces derniers temps ou
Effectivement, alors je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais oui, on sait que dans la société en général, peut-être il y a des tensions autour de certaines thématiques, on les abordera peut-être, mais notamment sur les questions de climat, on en parlera aussi avec la thématique qu'on s'est choisie aux bibliothèques municipales, mais effectivement c'est à la fois dans cette neutralité nous de faire attention à nos propres biais aussi, et puis justement de savoir aussi écouter les besoins, les opinions des gens, savoir faire la distinction entre une opinion et un fait, pouvoir expliquer aussi finalement, peut-être, ça c'est peut-être notre rôle, de mettre en avant aussi nos compétences professionnelles, c'est-à-dire de bien contextualiser et expliquer aussi ce que peut être l'information ou une documentation, qu'une documentation scientifique, c'est pas la même chose qu'une opinion, qu'un essai. Voilà, donc aussi de pouvoir contextualiser ce qui permet, je pense, c'est peut-être la part un peu utopique, justement, de garantir un débat serein, citoyen, démocratique.
Et par rapport justement au fait de ne pas se positionner, vous m'expliquiez quand on préparait cette discussion que vous n'achetiez pas certains livres. Voilà, il ne suffit pas de passer à la télé pour acheter un livre d'un auteur ou une autrice. Et est-ce que vous auriez un exemple précis de ça ? Vous me parliez de la politique.
Alors, on parlait effectivement des ouvrages un peu de campagne politique qu'on envoie un certain nombre en France ces temps. Ça commence. Effectivement, ce n'est pas forcément des ouvrages qu'on va prendre, pas parce qu'on ne voudrait pas d'un bord ou l'autre, ou justement restreindre une liberté d'expression, mais là, je pourrais interpréter dans notre politique documentaire le fait que ça n'a pas forcément une dimension locale pour nous, même s'il y a un intérêt d'actualité, bien sûr, certainement, dans notre public, mais que c'est des documents finalement qui vont passer assez vite, et peut-être pour les politiciennes et les politiciens qui ont été au pouvoir, après, par contre, on va plutôt avoir leur mémoire qui, là, prennent une dimension peut-être avec un peu plus de recul et une dimension historique, finalement. On ne va pas forcément avoir ces documents, ces livres de campagne qui ne sont pas forcément importants dans notre contexte local. C'est comme ça que j'interpréterais ces choix-là.
Est-ce que vous êtes déjà arrivé de censurer, de retirer des ouvrages volontairement?
Alors, hors de censure légale, donc de documents qui seraient interdits par la loi ou par une décision de justice, qui bien sûr devraient être retirés ou ne sont même pas à la vente. Le seul exemple récent que je connaisse, c'était avec l'affaire Matzneff, où effectivement, suite au livre de Vanessa Springora notamment, tout le monde a compris ou enfin vu qu'il y avait des soucis de pédophilie avec cet auteur, qui les exprimait en plus assez littéralement dans ses ouvrages. Et là, on a retiré effectivement les ouvrages à ce moment-là. Mais de nouveau, en s'inscrivant aussi dans un contexte, sachant que son éditeur les retirait aussi de son catalogue, etc. Et qu'effectivement, c'était plus acceptable d'avoir ce type de... Mais c'est le seul exemple récent que je connaisse où un auteur, hors de ce renouvellement naturel qu'on a évoqué avant, était retiré activement des collections.
Ouais. Et Sandrine Saïeb, on l'a vu tout à l'heure, pas de renouvellement naturel chez vous, vous gardez tout.
On garde Matzneff, oui. Il n'est pas à portée de la main, mais il est dans nos magasins, oui.
Et vous gardez également ces trois livres.
C'est juste des exemples, en fait. En histoire de l'art, on n'a pas de problème à changer le nom des tableaux. Il y a beaucoup de substantifs qui sont insultants. Donc les noms des tableaux changent, et les catalogues raisonnés aussi. Mais je revenais pour le substantif nègre. Nous, un ouvrage de référence en art premier, il sort, on ne va pas changer son titre.
Les gens qui nous suivent à la radio, ça s'appelle donc L'Art Nègre.
L'Art Nègre, c'est une reproduction d'une revue très importante en droit, parce que j'ai aussi des manuels de droit nègre, ce qui reflète l'époque coloniale et qui reste important au niveau juridique. Mais ça, c'était plutôt des exemples qu'on a en rencontre municipale. Dipti Nègre, ça n'existe plus depuis 1940 sous ce titre en anglais, depuis 2020 seulement en français. Et par contre,
le roman d'Agatha Christie,
oui, bien sûr, oui, maintenant. Il n'en reste qu'un, il y a eu toute une série de variations, mais c'est un ouvrage qui est vendu à 100 millions d'exemplaires, donc les héritiers peuvent se permettre de changer. Par contre, l'autre exemple, c'est Denis Laferrière, un auteur haïtien. Nègre en haïtien, ça veut dire homme, donc on ne va pas changer le titre de « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer » ou « Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit », des très beaux titres. Voilà, donc il y a des substantifs auxquels on ne touche pas pour des raisons historiques. Et je rappelais que nous, on n'a plus d'enfer, il n'y a plus d'enfer dans les bibliothèques. Les enfers, c'est un grand fantasme, c'est les livres que les bibliothécaires gardaient sous clé et ne montraient à personne. Nous, à partir du moment où c'est référencé, où c'est correctement, je reviendrai peut-être, indexé ou classifié, c'est accessible aux chercheurs.
Mais vous avez eu des enfers.
Je pense que dans toute bonne bibliothèque qui se respecte, oui, il y avait des enfers, mais c'était très subjectif.
On se retrouve juste après ceci.